Cette inflammation, ça va moduler la sensibilité de certains récepteurs. Donc, ça peut complètement mettre la zizanie au niveau de nos hormones. Tu peux faire une prise de sang et voir que, franchement, ton taux de progestérone, il est pas mal. Ces œstrogènes, on est pas mal aussi. Il n'y a pas une hyperœstrogénie de fou. Et quand bien même, en termes de symptômes, t'es vraiment en hyperœstrogénie. Et puis, tu as une phase lutéale, par exemple, si tu observes ton cycle, qui est assez courte. Et donc, ça voudrait dire que en termes de progestérone, on n'est pas tip-top. Et donc, si tu n'as pas observé la clinique et que tu regardes juste les chiffres et que tu tiens pas compte de ce paramètre de l'inflammation, tu peux dire, en fait, je comprends pas. Je suis peut-être pas fertile ou mes hormones, ça fonctionne pas. Mais c'est un peu la faute à pas de chance parce que les chiffres disent que tout va bien.
Pourquoi faut-il souvent attendre d'être confronté à des dysfonctionnements pour commencer à s'intéresser à son corps de femme ou d'homme ? Nos cycles, notre fertilité, nos hormones et nos nuances, on les connaît si peu en fait. Je suis Lorraine Saint-Dicic et ma mission, c'est de vous émanciper par une meilleure connaissance de votre corps. Chaque semaine, seule ou avec l'appui d'experts et d'expertes passionnés, on va vous apprendre à décrypter vos cycles, à vous autonomiser dans la gestion de votre fertilité ou de votre contraception. Bref, on va vous faire reprendre le pouvoir. Bienvenue chez Émancipé et place à l'épisode. Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir le docteur Claire Merlet, qui est médecin généraliste spécialisé en médecine fonctionnelle. Vous savez, c'est le genre de médecin que j'adore aussi recevoir dans le podcast parce qu'ils ont une approche très globale du corps, des hormones, de la fertilité en l'occurrence. Je vous spoil pas trop parce que Claire vous expliquera tout ça. Et aujourd'hui, on va parler d'inflammation et de l'impact de l'inflammation, notamment sur l'équilibre hormonal. Donc, si ça vous paraît très abstrait quand je vous le dis là, sachez qu'à la fin de l'épisode, ça sera hyper concret parce que Claire, elle est comme moi, elle a plein d'images, plein de trucs très métaphoriques pour que vous visualisiez ce que ça fait à l'intérieur du corps et ce qui se passe vraiment concrètement sur vos hormones. Donc, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec elle. Place à l'épisode. Bonjour Claire, merci de venir partager ce moment avec moi et avec toutes les personnes qui vont nous écouter pour parler du sujet de l'inflammation. On va expliquer ce que c'est parce que c'est peut-être un peu obscur, flippant mais obscur comme concept et son impact sur le cycle, sur les hormones, etc. Toi, tu es médecin fonctionnel. T'es pas la première que je reçois dans le podcast, donc on a déjà eu des explications sur ce que c'était la médecine fonctionnelle, mais peut-être que tu l'expliqueras aussi avec tes mots. Du coup, est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par te présenter ?
Carrément, avec plaisir. Déjà, bonjour Lorraine, merci beaucoup pour cette invitation. Du coup, je m'appelle Claire Merlet, je suis médecin généraliste de formation. Et effectivement, je me suis spécialisée en santé fonctionnelle, qui est une approche où on prend le patient beaucoup plus dans sa globalité, où l'idée, c'est de venir aller chercher un peu plus les causes profondes aussi des symptômes, des maux et des pathologies pour arriver à, tant que possible, essayer de réverser tous ces symptômes-là. Prise en charge qui est globale parce que on va aussi s'occuper de l'aspect stress, de l'aspect émotionnel qui est hyper important avec les grands piliers de la santé aussi. On va revoir un petit peu l'hygiène de vie. Donc, c'est une pratique qui est hyper large et il y a un gros pan aussi d'hormonologie. Donc, ça vraiment qui me passionne. Et pour ça, en santé fonctionnelle, on fait tout un bilan clinique. Et c'est vrai qu'on pousse un petit peu aussi avec certaines analyses biologiques, notamment, qui sont pas forcément faites en routine, du moins pas dans les recommandations de nos instances, mais qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin pour rechercher, encore une fois, les causes profondes. Et dernière chose, l'idée avec la santé fonctionnelle, c'est de faire un maximum aussi de prévention et d'éviter de tomber malade. Donc ça, c'est quand même un point hyper, hyper important et très utile, moi, je trouve.
Ouais, et très utile dans la fertilité, les hormones, où c'est toujours très multifactoriel. Et quand tu vas sur des spécialités un peu en silo, comme organiser la médecine, alors pas généraliste, la médecine spécialisée, du coup, t'as pas cette vision globale, alors qu'en fait, il y a souvent une vision globale dans la fertilité. Donc, c'est pour ça que je trouve ça passionnant, votre approche de la fertilité, et qu'elle rejoint beaucoup ce qu'on fait nous aussi en essayant d'avoir cette vision globale, mais avec l'œil médical. Claire, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, en quoi au quotidien tu participes à l'émancipation des femmes ?
Ouais, justement, moi, je trouve de pouvoir donner cet espace aux femmes où déjà elles peuvent s'exprimer, parler pleinement de tous leurs symptômes et qu'on leur dise pas c'est dans votre tête. Déjà, moi, je trouve que c'est un premier pas vers l'émancipation. De comprendre ces hormones et de comprendre aussi à quel point nos hormones ont un impact dans tous les aspects de notre vie, que ça soit d'un point de vue physique, mais aussi mental et émotionnel. Donc, Je pense, un peu comme toi, le savoir, c'est le pouvoir. Et donc, apprendre à connaître son corps, à connaître son cycle, ses hormones, c'est hyper important. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je suis en train de terminer ma formation aussi pour être formatrice à la symptothermie, qui est un outil exceptionnel dans les consultations de santé fonctionnelle, parce que cliniquement, ça va nous donner des infos hyper riches pour mieux comprendre où sont les désordres hormonaux, pardon, même si on a plein d'autres symptômes cliniques qui peuvent nous aider, et aussi la biologie. Mais peut-être on va en reparler, les chiffres, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus parlant. Et d'une femme à une autre, peut-être qu'on aura les mêmes chiffres, mais peut-être pas les mêmes symptômes, peut-être pas la même tolérance. Et donc, l'apport de la symptothermie est vraiment une clé, et même pour savoir à quel moment du cycle faire ses analyses. Ouais. C'est juste génial quand la patiente observe son cycle, et de pouvoir lui apprendre à observer son cycle et mieux se connaître, c'est juste génial. Donc, je pense que l'émancipation, elle passe par le fait d'être écouté, déjà, qu'il y ait un professionnel qui puisse recevoir tous ces symptômes, faire un petit peu la synthèse, essayer d'éclairer, de savoir où on va, et puis d'apprendre à connaître son corps. Pour moi, c'est une vraie émancipation.
Ouais, tu fais partie de ces médecins, cette nouvelle génération de médecins qui se forment à la symptothermie, ou en tout cas qui, à minima, ils sont ouverts. Et c'est hyper chouette de voir ta vision de l'intérêt que ça a dans une consultation et dans un diagnostic, quoi. Parce qu'il y a plein de choses que seule une femme qui s'observe peut savoir. Et que tu verras jamais à la prise de sang, que tu verras jamais à l'imagerie, que tu verras que en la faisant parler. Et si elle sait pas s'écouter, elle peut pas parler, quoi.
Non, c'est clair.
Ouais. Hyper intéressant. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le sujet de l'inflammation et justement son lien avec les hormones, le cycle, etc. Mais je pense que le plus important, c'est qu'on démarre par définir cette notion parce que, encore une fois, je pense que c'est très fourre-tout ou très flou en tout cas. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'inflammation dans le corps et après, on verra un peu l'impact.
Carrément. Alors, l'inflammation, ça se passe plutôt au niveau de notre système immunitaire à l'origine. Donc, l'inflammation, ça va être plein de signaux que vont s'échanger nos cellules de l'immunité pour dire « bon, c'est dans tel endroit, dans tel tissu qu'il va falloir aller combattre des agresseurs ». Et si on prend un tissu, qu'on le regarde au microscope, et on va dire « là, il y a de l'inflammation », c'est parce qu'on a un agrégat de plein de certains types de cellules immunitaires. Donc à la fois, c'est vrai que c'est quelque chose de très abstrait et très fourre-tout, comme tu dis, mais c'est très très concret, c'est de la chimie, donc plein de petits messages de l'inflammation entre les cellules de l'immunité et dans un tissu, en gros, un infiltrat de cellules immunitaires, en gros, pour simplifier et en même temps imager le truc.
Et à la base, c'est cool, c'est important.
Carrément.
C'est une réaction dont on a besoin.
On en a totalement besoin, justement, pour venir se défendre contre des agressions, pour venir réparer un tissu. Typiquement, quand on se coupe, il va y avoir toute une réaction. Il y aura aussi un petit peu d'inflammation. D'ailleurs, parfois, on peut voir la peau, elle devient un petit peu rouge, un petit peu démaciée. Même quand on se casse quelque chose, quand on se fait une entorse, il y a toute une réaction d'inflammation parce que cette inflammation, également, elle va permettre d'irriguer au maximum, d'apporter un afflux sanguin dans une zone pour venir la cicatriser et pour qu'on apporte plein de nutriments pour la cicatrisation. Donc, l'inflammation, notamment quand elle est aiguë, elle est totalement bénéfique. Pareil, quand on a un petit virus, l'inflammation va monter, même une infection bactérienne, l'inflammation va monter, les cellules de l'immunité vont se charger d'éradiquer l'agresseur, et hop, après, l'inflammation va redescendre.
Donc, c'est comme ça que tu vas avoir la fièvre, le bleu, tout ça, c'est des réactions inflammatoires.
Exactement, c'est ça. La fièvre, ça fait partie de cette inflammation. L'inflammation, typiquement, c'est de la chaleur, de l'œdème, de la rougeur, en gros, qu'on voit cliniquement. Ouais. Et encore une fois, c'est ce qui permet de mettre en place plein de mécanismes pour que le corps puisse se défendre.
Donc ça, c'est l'inflammation aiguë en réaction à une agression et on veut que le corps sache se défendre. Et après, ce qui est plus gênant, c'est quand l'inflammation, j'imagine, elle devient chronique où on est toujours en climat inflammatoire, c'est ça ?
Exactement, c'est ça. Donc le problème, c'est quand cette inflammation, elle reste au plafond en haut et qu'elle redescend pas. Et là, on tombe effectivement dans une inflammation chronique qui est presque un petit peu comme un dérèglement du système immunitaire et qui peut du coup permettre qu'il y ait certaines pathologies inflammatoires, des pathologies auto-immunes qui peuvent se mettre petit à petit en place. Ça peut être de façon... plutôt pour parler en symptômes peut-être plus concrets, ça peut être aussi des tendinites à répétition, quelqu'un qui est tout le temps des tendinites. Ça peut être aussi d'avoir de l'endométriose, d'avoir des rhumatismes inflammatoires, par exemple une polyarthrite rhumatoïde, développer des maladies auto-immunes comme la maladie d'Hashimoto. L'auto-immunité, c'est en fait, pour imaginer un petit peu, c'est quand le système immunitaire, au lieu de faire des roquettes contre les agresseurs, bah, il va commencer à en faire contre nos propres organes. Et donc, c'est là où ça peut venir devenir complètement délétère pour l'équilibre du corps.
Et attends, qu'est-ce qui explique qu'ils se mettent à envoyer des roquettes contre ses propres organes ?
Alors, c'est plein de mécanismes assez compliqués, mais en gros, c'est un dérèglement du système immunitaire. Et c'est vrai qu'à l'origine, en général, bah, y a une inflammation chronique qui s'est installée et qui, vu qu'elle n'a pas été résolue, bah, petit à petit, le système immunitaire, il va se dérégler et commencer à faire des anticorps contre notre propre système.
Typiquement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont concernées, et moi, la première, tout ce qui est Hashimoto, hypothyroïdie auto-immune, où on s'auto-attaque sa propre thyroïde, c'est ça hein ?
Exactement. Alors, encore une fois, c'est hyper plurifactoriel. Il peut y avoir aussi un choc émotionnel, il peut y avoir des carences, il peut y avoir plein de choses. Mais c'est vrai que cette inflammation, en général, elle est, j'ai envie de dire, tout le temps là, à partir du moment où il y a un dérèglement auto-immune. En tout cas, à la base, le jour où ça a commencé à vraiment se dérégler, souvent, c'est qu'il y avait quand même un climat inflammatoire. Et en gardant en tête aussi que le stress est un gros pourvoyeur aussi d'inflammation. Quand il y a beaucoup de stress, ça peut faire que, bah, du coup, on va avoir ces mécanismes dits immunitaires, effectivement.
Ouais, c'est la question que je voulais te poser. C'est quoi l'origine, en fait? À quel moment est-ce que c'est un gros stress? Mais tu vois, c'est quoi un peu toutes les causes qui peuvent apporter cet excès d'inflammation?
Comme le disait Hippocrate il y a quelques milliers d'années, tout vient de l'intestin. Et c'est vrai qu'on se rend compte à l'heure actuelle que c'est plutôt vrai. Dans le sens où, en plus, on a 70-80% de notre immunité au niveau de l'intestin. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, tout vient de l'intestin. Et pour savoir à quel moment ça se dérègle, déjà, il faut comprendre un petit peu comment fonctionne notre intestin. Donc, ce que j'explique à chaque fois en consultation, c'est que notre intestin, c'est un tube. Dans la paroi de ce tube, donc, on va y avoir plusieurs épaisseurs. Une première épaisseur à l'intérieur qui est le mucus, une espèce de gelée protectrice qui tapisse l'intérieur du tube et qui va protéger toutes les couches qui sont plus en profondeur. Ce mucus va également abriter notre fameux microbiote, donc nos bactéries, levures, champignons, qui sont à l'équilibre, qui travaillent pour nous, qui digèrent pour nous. Ce qui fait vraiment ensuite l'épaisseur de notre paroi, ça va être nos cellules intestinales. C'est comme les petites briques d'un mur. Elles sont collées les unes aux autres et unies par ce qu'on appelle des jonctions serrées. C'est un petit peu le ciment entre les cellules de l'intestin et qui permet de garantir l'étanchéité de notre paroi intestinale, de telle sorte que notre intestin est complètement imperméable aux toxines, aux bactéries, aux aliments pas bien digérés. Et en revanche, pour pouvoir absorber les nutriments, nos cellules intestinales, elles ont plein de microvillosités, c'est des petits replis qui permettent d'avoir une grande surface d'échange et d'absorber un maximum de nutriments. Juste derrière ce rempart de cellules intestinales, on va avoir les fameuses cellules de l'immunité, donc en gros nos petits soldats derrière le rempart qui sont là pour combattre si jamais il y a une brèche dans le rempart de cellules, ils sont juste derrière pour pouvoir contre-attaquer. Parce qu'il faut garder en tête que notre intestin, même si c'est un organe qui est interne, c'est une énorme surface d'échange entre l'intérieur et l'extérieur. Parce qu'on va manger, on va avoir des bactéries, plein de choses, tout. C'est normal, hein, d'accord, il faut pas avoir peur de ça. Mais notre intestin, il est câblé en direct sur notre circulation sanguine. Parce que le but de l'intestin, du coup, c'est d'absorber un maximum de nutriments et par le système sanguin d'aller nourrir tous nos autres organes. Donc, il faut pas qu'il y ait des agresseurs qui puissent rentrer dans le sang et aller contaminer nos autres organes. Donc, c'est pour ça qu'on a autant d'immunité, de cellules de.
T'as toutes les petites roquettes qui sont envoyées sur le rempart, là, pour protéger et qu'il n'y ait que le bon qui aille. Irriguer le reste, quoi.
Exactement. Okay. Le problème, tu peux t'en douter, c'est qu'à un moment, ça peut dérailler et les différentes couches, elles peuvent être déstabilisées. Donc, le mucus, un petit peu selon notre génétique, on découvre petit à petit qu'il y a certains polymorphismes génétiques, c'est-à-dire certaines mutations, certaines versions de gènes qui vont faire qu'on va sécréter plus ou moins de mucus. Selon l'état de notre microbiote aussi, on va avoir plus ou moins de mucus protecteur. Donc ça, premier point quand même qui peut déstabiliser notre rempart. Le microbiote, un peu selon notre diète, selon si on est stressé ou pas, selon si on a eu des antibiotiques, si on est né par césarienne, si on a été allaité, bref, toutes les choses qui peuvent impacter notre microbiote. Ouais. Du coup, on peut avoir un microbiote qui peut déjà, de base, sécréter plus de molécules de l'inflammation ou non. et être plus ou moins délétères pour l'écosystème intestinal global. Et au niveau du rempart, stricto sensu de nos cellules intestinales, ben, le ciment entre les cellules, donc les jonctions serrées, sous l'effet de différents facteurs, elles peuvent être découpées. Et donc, si ce ciment entre les cellules, ben, il est découpé, ben, il va y avoir des trous dans les remparts du château fort, justement. Et par ces trous-là, ben, encore une fois, il peut y avoir des toxines, des bactéries, des aliments moins bien digérés qui vont pouvoir passer. Et le système immunitaire qui est juste derrière, ben, il va juste faire son travail. Il va voir arriver toutes ces toxines-là. Il va tirer la sonnette d'alarme et il va déclencher la fameuse inflammation. Donc, toute cette chimie pour dire, allez les gars, à cet endroit-là, il y a une brèche, il va falloir aller combattre.
Ouais, c'est ça qu'on appelle la porosité intestinale.
Exactement, c'est exactement ce qu'on appelle la porosité.
Et du fait de la porosité intestinale, tes soldats, ils sont au taquet, mais beaucoup trop au taquet, tout le temps.
Ouais. Exactement, alors, parfois, il y a une petite porosité intestinale, j'en sais rien, tu as eu une petite intoxication alimentaire, ça a été un petit peu déstabilisé, et puis petit à petit, ça peut se remettre en place, et tu vas pas forcément avoir une grosse inflammation chronique, mais parfois, cette inflammation, si la porosité intestinale n'est pas traitée ou qu'on continue de mettre de l'huile sur le feu, ben, l'inflammation, c'est là où elle peut carrément devenir chronique, et c'est là où on peut avoir plein de symptômes d'inflammation. Les troubles hormonaux, les tendinites, c'est là où aussi, ben, du coup, on peut vachement ballonner, avoir des gros troubles digestifs. Donc, c'est vraiment cette porosité intestinale qui est à l'origine d'énormément, énormément d'inflammation dans notre corps.
Et comment tu te trouves, comment tu diagnostiques ça?
Principalement, moi, je trouve cliniquement. Déjà, si la personne, elle a plein de symptômes d'inflammation, ça va me donner envie d'aller creuser un petit peu plus sur l'aspect digestif. Et souvent, dans la digestion, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ballonnements. Parfois, peu importe les aliments. Donc là, c'est vraiment qu'on est face à une grosse hyperperméabilité intestinale ou parfois même à certains désordres au niveau du microbiote, comme un SIBO, par exemple, où on a un développement excessif de certaines bactéries dans l'intestin, qui peuvent être relativement pathogènes et donc aussi déclencher une forme d'inflammation, parce que tout est quand même assez lié. Donc, en fonction de l'équilibre hormonal, s'il y a un gros déséquilibre entre œstrogène et progestérone, parce que typiquement, quand il y a de l'inflammation, nos récepteurs aux œstrogènes sont hypersensibles et par contre, on est hyper résistant à la progestérone. Donc, quand il y a un gros syndrome prémenstruel, souvent quand il y a de l'endométriose, on sait qu'au niveau hormonal, on galère un petit peu.
On paye les pots cassés probablement d'autres choses.
De cette inflammation, encore une fois, des douleurs articulaires, plein de choses comme ça, ça va quand même nous donner la puce à l'oreille. Ensuite, d'un point de vue de la prise de sang, on va avoir la CRP, donc qui est une protéine de l'inflammation. Il faut plutôt essayer de faire une CRP justement ultra sensible pour voir s'il n'y a pas une inflammation de bas grade. Alors ça aussi, il y a un peu une échelle dans l'inflammation. Soit il y a une très grosse inflammation, très forte, avec une CRP qui va être vraiment au plafond dans les 200, 300. Donc ça, souvent, on voit plus quand même dans des cas assez aigus d'infection.
C'est un moment bien déterminé et court, quoi.
Exactement. Parfois, ça peut durer quand même sur quelques semaines, mais c'est plus des choses que, par exemple, j'ai rencontré à l'hôpital ou même en ville, mais quand le patient a vraiment une grosse infection bactérienne. Donc là, on va avoir des CRP très, très élevées. Et parfois, quand on a une petite inflammation chronique, la CRP, elle peut être un petit peu élevée. Par exemple, quand une maladie auto-immune est en train de flamber, on peut avoir une CRP à 10, 20, 30. Donc, elle n'est pas non plus au plafond, mais on sent qu'il y a quand même une belle inflammation. Et après, il y a cette fameuse petite inflammation de bas grade. C'est comme si on avait des braises ou un tout petit début d'incendie dans notre système, en fait, dans tout notre corps. Et là, on peut avoir une petite CRP à 2, 3. C'est quelque chose qui va un peu passer sous les radars, mais qu'il faut quand même prendre en considération pour éviter que plus tard, ça flambe encore plus et qu'on souffre encore plus de cette inflammation.
Ouais, donc tu as surtout la clinique et quand même un peu la biologie. Avec la CRP, tu as peut-être d'autres marqueurs, justement,
carrément.
Ce qui permet le mucus, là, ce que tu disais tout à l'heure.
Alors, moi, c'est vrai que en routine, par exemple, je le fais pas spécialement. Tout ce qui est LBP, pour la zonuline aussi, donc qui sont plus des marqueurs pour voir s'il y a une porosité intestinale. La zonuline, c'est notamment une molécule, on dira, une protéine qui va venir justement couper les jonctions serrées. Donc, quand il y a beaucoup de zonuline, que c'est très élevé, on sait qu'on est en train de découper un max de jonctions serrées et donc de créer un maximum de perméabilité, de porosité intestinale. La LBP aussi, c'est un bon marqueur. Mais à partir du moment où je trouve que c'est pas pris en charge par la sécurité sociale et que cliniquement déjà on peut avoir plein de marqueurs qui nous mettent la puce à l'oreille. Je t'avoue qu'en routine, moi, je les fais pas. Mais j'ai plein de confrères qui les font et plein de praticiens en santé fonctionnelle qui les font. Et c'est très bien. Et ça nous permet aussi, parfois, d'avoir des données chiffrées pour suivre l'évolution clinique du patient. Mais moi, je ne fais pas spécialement tout le temps, quoi. Quand je dis pas en routine, c'est que...
Oui, toi, tu as déjà parfois un tableau tellement flagrant que tu n'as pas besoin d'aller aussi loin, quoi.
Ouais. Moi, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va vraiment être la clinique qui prime. On peut le voir, alors peut-être on s'écarte un peu du sujet de l'inflammation, mais on peut le voir par exemple pour la thyroïde, parfois si on regarde même en se basant sur des valeurs santé, donc il y a les normes de labo et il y a les normes santé sur les analyses cliniques, même quand on est sur des normes de santé optimales, mais parfois la personne a quand même des symptômes d'hypothyroïdie, on va pas lui dire bah non, la prise de sang est normale, mais d'un point de vue santé vous êtes optimale, on va rien faire. Bah non, moi je trouve qu'il faut quand même plus prendre en charge la clinique, et c'est pour ça que pour tout ce qui est perméabilité intestinale, inflammation générale, moi je note tout le temps tous les symptômes qu'ont les personnes la première fois que je les vois, et puis au fil des consultations, bah on refait toujours le point sur ces symptômes cliniques. Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que ça s'est augmenté? Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui sont apparus en lien justement avec cette inflammation? Et je trouve que c'est extrêmement riche, même si je vais quand même suivre avec la CRP, qui je trouve nous donne un bon indicateur. À petit bémol, enfin, il faut remarquer que il y a certaines personnes qui ont des gros symptômes d'inflammation et qui pourtant ont une CRP négative. Mais même quand on demande l'ultrasensible, en fait, là aussi sur la CRP, il existe des polymorphismes génétiques, c'est-à-dire que il y a plusieurs types de CRP, en fait, plusieurs versions de cette CRP. Et en laboratoire, on va en doser certaines et pas d'autres. Et peut-être que certaines personnes ne vont pas trop exprimer les CRP qui sont dosées en laboratoire, alors qu'ils vont en exprimer d'autres. Donc après, il y a de nouveaux marqueurs qui sont un peu en train d'émerger, qui ne sont pas du tout faits en routine. Mais certaines études sont en train de voir la pertinence d'autres marqueurs pour évaluer
qui pourraient être plus fiables.
Ouais, exactement.
Non, mais ce que tu décris, je trouve que c'est très cohérent avec la définition de la médecine fonctionnelle que tu as donnée au début. C'est qu'en fait, ce qui t'importe, c'est le bien-être aussi du patient. Exactement. Et du coup, ses symptômes. Et en fait, c'est là-dessus que tu veux monitorer que ça s'améliore. Parce que c'est ça qu'on cherche au final, c'est de se sentir bien. Et après, t'as expliqué tout ça et t'as commencé à parler un peu d'œstrogène, progestérone. Et c'est là, je pense qu'il faut qu'on vienne parce qu'on connaît nos auditrices et nos auditeurs d'ailleurs, mais c'est beaucoup ce sujet-là qui les intéresse. Et il y a des choses peut-être qu'on ne voit pas toujours si on ne sait pas observer son cycle, justement, l'impact, d'où l'importance, tu disais, d'apprendre aux femmes à écouter leur cycle pour voir des éventuels impacts. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas si tu avais terminé la partie vraiment générale sur l'inflammation, mais voir l'impact sur les hormones et notamment les hormones liées à la fertilité.
Carrément. Bah, du coup, cette inflammation, déjà, comme j'ai expliqué, ça va moduler la sensibilité de certains récepteurs. Donc, ça peut complètement mettre la zizanie au niveau de nos hormones. Et encore une fois, l'importance de la clinique, bah, c'est vraiment la clé parce que tu peux faire une prise de sang et voir que franchement, ton taux de progestérone, il est pas mal, que tu vois, tes œstrogènes, on est pas mal aussi, il y a pas une hyperœstrogénie de fou. Et quand bien même, en termes de symptômes, bah, t'es vraiment en hyperœstrogénie, et puis t'as une phase lutéale, par exemple, si t'observes ton cycle, donc deuxième partie de cycle post-ovulation, qui est assez courte, et donc ça voudrait dire que en termes de progestérone, on n'est pas tip-top. Et donc, si tu n'as pas observé la clinique et que tu regardes juste les chiffres et que tu ne tiens pas compte de ce paramètre de l'inflammation, bah, tu peux dire, bah, en fait, je ne comprends pas. Je suis peut-être pas fertile ou mes hormones, bah, ça ne fonctionne pas, mais c'est un peu la faute à pas de chance parce que les chiffres disent que tout va bien. Et donc, encore une fois, revenir à la clinique et à cette éventuelle hypothèse de l'inflammation et s'en occuper dans son hygiène de vie. Peut-être qu'on y viendra après, mais moi, je pense qu'il y a certaines petites choses clés à mettre en place dans l'hygiène de vie qui peuvent déjà faire un effet waouh et un effet de gros nettoyage au niveau hormonal qui est hyper, hyper important. Quand on sécrète des hormones, il va falloir que le corps, bah, il est détoxifié aussi. Donc, la détoxification, il y a une première étape qui se fait dans le foie. Donc, si le foie, il a déjà beaucoup de toxines à gérer parce qu'il y a beaucoup d'inflammation, bah, ça peut être un petit peu compliqué. Et ensuite, au niveau du microbiote, s'il y a beaucoup d'inflammation, beaucoup de bactéries assez pathogènes qui génèrent de l'inflammation, bah, le foie, en fait, il va détoxifier les molécules. Donc, en gros, si je schématise pour détoxifier nos hormones, il va les enrober d'une molécule. Ça va être éliminé bah, une partie dans nos urines et principalement bah, par les selles. Donc, ça va passer au niveau du système digestif. Si notre microbiote, il est hyper, hyper inflammatoire, bah, cette molécule qui a enrobé notre hormone pour l'éliminer, elle va être enlevée par notre microbiote et on va se retrouver avec des hormones qui vont repasser dans le système et notamment des œstrogènes. Et c'est là une des voies aussi qui peut concourir à une hyper-œstrogénie aussi dans le corps. Donc, encore une fois, tu vois, quand on a un intestin qui n'est pas pris en charge dans des troubles hormonaux, bah, moi, je trouve que c'est une grosse erreur parce que, encore une fois, bah, il faut tout prendre en charge, quoi. C'est pas juste en prenant des petites pilules pour réguler les hormones, même si on en a besoin. Et moi, j'utilise carrément ça. Déjà, le temps de gérer la cause, on a besoin au niveau des symptômes d'améliorer la qualité de l'ovulation, d'améliorer la phase lutéale, tout ça.
Ouais, à court terme, c'est bien.
À court terme, exactement. Ouais. Et en fait, il faut quand même s'occuper de la cause et de la base. Et pas chez toutes les personnes, mais chez beaucoup de personnes, avec tout le stress qu'on a, avec la diète qu'on a, avec toutes les intoxications qu'il y a à l'heure actuelle, franchement, l'inflammation, elle est un petit peu omniprésente, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est que c'est pas une niche, quoi. C'est quelque chose qui, a priori, est très fréquent et, en conséquence, a des effets sur les cycles de beaucoup de femmes.
Exactement. Et franchement, moi, en consultation, je pense que je compte, enfin, je suis peut-être un peu marseillaise, mais je compte sur les doigts d'une main les patients et les patientes surtout qui ont des troubles hormonaux et pas d'inflammation. Enfin, presque, je pense que j'en connais pas, quoi.
Et attends, tu parlais donc l'hyperœstrogénie, où justement on a, soit parce qu'on n'élimine pas bien les œstrogènes, soit on en a trop, on est exposé à trop. Mais est-ce que tu pourrais nous refaire un peu, peut-être une petite liste des symptômes de l'hyperœstrogénie pour que les gens qui nous écoutent se disent, ah oui, tiens, ça me parle, ou, ben non, pas du tout, c'est pas moi.
Ouais, carrément. Alors, symptômes d'hyperœstrogénie, typiquement, ça peut être la rétention d'eau, les douleurs dans les seins, le fait justement d'avoir, par exemple, des moments où on a vraiment beaucoup de glaire à plusieurs moments du cycle, une phase lutéale qui est raccourcie, des grosses douleurs pendant les règles, d'avoir des règles qui sont assez hémorragiques, notamment avec des gros caillots, des troubles circulatoires en règle générale, de faire fréquemment des migraines, de faire aussi facilement tout ce qui est accident thromboembolique. Donc ça, c'est un petit peu plus grave, un peu plus extrême, mais ça fait partie de ces symptômes-là. Mais vraiment, les plus fréquents, c'est ce qu'on va retrouver, en fait, souvent dans les femmes qui se plaignent d'un syndrome prémenstruel.
Ouais.
Et clairement. Le côté règle abondante, et avec vraiment les caillots, c'est assez typique.
Et est-ce que tu le vois forcément à la prise de sang, ou même pas forcément, puisque en fait, c'est un problème d'élimination qui se fait pas bien?
Non, il y a quand même des femmes qui ont aussi un climat d'hyperœstrogénie, on voit les chiffres. Vraiment à la prise de sang, il peut y avoir à cause des perturbateurs endocriniens qui vont mimer l'effet des œstrogènes au niveau de l'alimentation aussi, certains aliments qui vont apporter quand même aussi beaucoup d'œstrogènes et tout simplement parfois des femmes qui ont un corps qui produit plus d'œstrogènes aussi, tout simplement. Avec tout un équilibre avec d'autres hormones aussi qui peuvent stimuler la sécrétion des œstrogènes. Donc oui, à la prise de sang, on peut aussi voir qu'il y a une hyperœstrogénie avérée, quoi. Il y a une différence entre hyperœstrogénie relative aussi et hyperœstrogénie vraie. Donc hyperœstrogénie relative, c'est qu'il y a un déséquilibre, notamment avec la progestérone. Et la vraie hyperœstrogénie, c'est que la progestérone, elle tient la route, mais franchement, on a des œstrogènes qui sont vraiment au plafond. À savoir que la pilule, typiquement aussi, est un facteur d'hyperœstrogénie qu'on voit à la prise de sang, notamment.
Mais là, c'est des œstrogènes de synthèse.
Des œstrogènes de synthèse, tout à fait.
Et ce que tu dis de relatif et absolu, ça vaut aussi pour la progestérone, où on va parfois avoir une insuffisance en progestérone absolu, c'est-à-dire qu'on vraiment n'en a pas assez, et puis parfois relatif parce qu'on a trop d'œstrogènes et que ça nous déséquilibre complètement notre phase post-ovulatoire, quoi.
Exactement, et c'est vrai que les hormones, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une vraie symphonie et c'est une vraie, il doit y avoir une vraie harmonie entre chaque hormone et tout est hyper intriqué. Franchement, parfois, tu es dans des cercles vicieux de fou parce que telle hormone va faire qu'on a moins de telle hormone et le déficit de telle hormone fait qu'on a un excès d'une autre. Enfin, c'est vraiment, tout est en interrelation et c'est vrai que c'est pour ça que l'hormonologie, c'est hyper, hyper compliqué, quoi.
Ouais, mais ton métier, il est passionnant parce que du coup, tu es un peu géotrophe tout, quoi.
oui, carrément. Et parfois, il y a des cas qui sont quand même difficiles et il faut qu'on cherche et qu'on essaye des choses. On voit si ça marche, si ça marche pas. Et du coup, on arrive à d'autres hypothèses. Donc, c'est vrai qu'il y a des cas où les troubles hormonaux sont relativement faciles à prendre en charge. Et il y a des moments où on est un peu en mode Sherlock Holmes, c'est de savoir qui de l'œuf ou la poule a commencé à dérégler quoi. Et c'est assez compliqué. Et il faut souvent prendre un petit peu tout en charge en même temps, quoi.
Ouais, mais ce que t'expliques, et c'est un peu l'objectif de cet épisode, c'est qu'il y a quand même toujours un méchant à aller regarder, ouais. C'est l'inflammation.
Moi, je trouve qu'il faut toujours aller le regarder et l'éliminer, ouais. Et à minima, bah, dans son mode de vie, essayer d'adopter un mode de vie qui est hypo-inflammatoire. Parce qu'en fait, si on regarde bien, la vie de tous les jours qu'on nous propose, elle est juste hyper pro-inflammatoire. Ouais. D'un point de vue de l'alimentation, du rythme de travail qu'on a, de sommeil, tout ça. Donc, je pense que ça, c'est hyper important. Dans l'alimentation, bah, les principaux facteurs qui peuvent altérer nos jonctions serrées, on a quand même le blé moderne avec le gluten, en fait. Donc, surtout le gluten moderne, parce que les blés plus anciens, style petit épeautre, Khorasan, Kamut, déjà, en termes de gluten, par exemple, pour le petit épeautre, on est sur du 3%, alors que les blés modernes, ils ont tellement été hybridés, modifiés, qu'on est sur du 40% de gluten. Et ce gluten-là, il peut carrément venir découper nos jonctions serrées. Donc, dans son quotidien, l'idée, alors, à jauger en fonction aussi des troubles qu'on a, selon les troubles hormonaux, moi, je recommande d'être un petit peu plus strict que selon d'autres troubles. Mais déjà, je pense, si on veut avoir un bon équilibre hormonal, essayer de limiter le plus possible le blé moderne. Déjà, de passer sur du blé ancien, par exemple, du pain en levain au petit épeautre, c'est une bien meilleure alternative que de la baguette blanche. Éviter de manger tout le temps des pâtes comme source de féculents, plutôt partir sur tout ce qui est pommes de terre, patates douces, pourquoi pas un petit peu du riz, et limiter notre apport de féculents aussi de façon globale. Je trouve que c'est assez dommage dans les recommandations assez classiques. On nous dit que les céréales, c'est vraiment la base de l'alimentation. Et en fait, oui et non, quoi. Si on veut avoir des hormones qui fonctionnent au top, l'idée, c'est pas du tout de les supprimer, hein, ces céréales, mais de voir comment on peut adapter pour avoir des meilleures sources de céréales et de féculents. Parce qu'un autre facteur qui est vraiment pourvoyeur de perméabilité intestinale, ça va être les antinutriments. Et ça, c'est des substances qu'on a dans l'enveloppe des céréales, des légumineuses, un petit peu des oléagineux. Et c'est vrai que je trouve que c'est des aliments qui sont vachement mis en avant. On conseille vraiment de végétaliser à fond son alimentation et ça, c'est une bonne chose. Mais du coup, si on se rue tout le temps sur les céréales, les légumineuses, les oléagineux, en fait, on a de fortes chances in fine d'avoir un intestin qui est hyper, hyper perméable. Et donc, l'idée, c'est pas forcément de plus en manger, mais encore une fois, d'être un peu malin et de savoir comment est-ce qu'on va les préparer. Et les céréales, typiquement, ce que faisaient nos ancêtres, même, je pense, il n'y a pas si loin, genre nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, mais ils faisaient tout le temps tremper les céréales et les légumineuses. Et ça, c'est un geste avec nos modes de vie à 2000 à l'heure qu'on a complètement
perdu.
On a complètement perdu et ça, ça va carrément impacter notre paroi intestinale. Donc, les céréales sont pas la base de notre alimentation, les légumineuses non plus. Et en plus, si on veut en consommer, on les fait bien tremper. On privilégie des céréales plutôt sans gluten ou avec faiblement de gluten. En sans gluten, naturellement, on a tout ce qui est sarrasin, quinoa, on a tout ce qui est à base de farine de châtaigne, le millet. Il y a plein de choses. En fait, souvent, quand on parle de manger sans gluten, ça fait un peu peur. En fait, quand on commence à s'y intéresser, on découvre qu'il y a une telle diversité.
Je pense que chez soi, c'est pas si dur, c'est à l'extérieur que c'est dur.
Oui, effectivement. Mais du coup, c'est pour ça, selon les troubles hormonaux, moi, ce que je...
Oui, t'es pas obligé de faire une éviction totale, quoi.
Exactement. Mais déjà, dans son quotidien, il y en a moins. Franchement, ça va limiter énormément de symptômes, surtout tout ce qui est gros syndrome prémenstruel, l'endométriose. Ouais. Moi, je trouve, si on se met pas sur une alimentation hypo-inflammatoire, je pense qu'on loupe un petit peu quelque chose. Donc, c'est vraiment quelque chose à mettre en place. Un autre facteur, donc on a parlé le gluten, les antinutriments.
Quand tu dis les antinutriments, c'est les légumineuses?
Tout ce qui est tout aliment qui contient des antinutriments, donc principalement les céréales, surtout les céréales complètes. Donc, plus il y a la peau, en fait, plus on va avoir d'antinutriments. Donc finalement, moi, tout ce qui est complet, c'est pas franchement quelque chose que je recommande. Je sais, on en parle au niveau de la glycémie, mais on va en parler un petit peu après de comment gérer sa glycémie, parce qu'effectivement, la résistance à l'insuline peut être pourvoyeur d'inflammation. Il faut gérer aussi un petit peu le sucre. Mais pour autant, tout ce qui est céréales complètes, à moins de bien les faire tremper, c'est pas toujours l'idéal en termes de...
Donc prendre les pâtes complètes, c'est pas forcément une bonne idée, quoi.
Moi, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée, notamment le riz complet aussi. Surtout que bon, je sais que c'est hyper anxiogène pour certaines personnes d'en parler aussi, mais surtout qu'on découvre qu'il y a de plus en plus de contamination, notamment le riz, par exemple avec l'arsenic, l'histoire du cadmium dans les céréales.
My God, ouais. Ça, c'est mon traumatisme du moment, Claire. N'allons pas là-dessus parce que ça me fait trop peur. Ouais.
Mais du coup, déjà, dis-toi que si tu pars sur des choses qui sont pas complètes, t'as un peu
t'as moins de risque
d'intoxication, tu vois, un peu moins de risque en faisant bien tremper aussi. Tu limites quand même ton exposition et après, on sait que ça dépend de l'endroit d'où ça vient. Typiquement, pour le riz, apparemment, le riz basmati serait le riz le moins contaminé à l'arsenic, par exemple. Donc, c'est peut-être pas hyper écolo. On se dit trop bien, je vais prendre du riz de Camargue. Et en fait, y a peut-être plus d'arsenic dans celui-là que le riz basmati.
C'est fou, hein. C'est incroyable.
C'est vrai que quand on commence à creuser un peu la question de l'alimentation, c'est vrai qu'on ouvre une boîte de Pandore et il y a vraiment...
Ouais, et t'as envie d'aller dans le Larzac avec ton petit potager et de rester pépère.
C'est pas faux.
À élever ta chèvre. On n'est pas comme ça, donc on fait comme on peut avec ce qu'on a. Mais c'est bien quand même d'avoir des clés comme tu nous donnes. Et en prévention, c'est-à-dire que je trouve que ce que t'expliques, c'est important, c'est que quand on sent qu'on a des petits signaux d'inflammation, sans forcément aller faire un gros bilan, alors c'est toujours mieux, bien sûr, mais déjà de savoir ce qui attise le feu, et qu'on peut un peu faire baisser soi-même en autonomie, c'est déjà génial. Donc, continue donc ta liste, Claire, on est prêt.
Carrément. On a parlé donc des antinutriments. Effectivement, dans les antinutriments, il y a tout ce qui est de légumineuses. Donc ça, les légumineuses, par contre, je dis toujours en consultation, il vaut mieux ne pas en manger qu'en manger mal préparé. Moi, je trouve que, enfin, je vois par exemple les personnes dans ma patientèle qui sont véganes ou végétariennes et qui ont des troubles hormonaux, mais c'est celles qui ont les pires troubles hormonaux, surtout si elles font pas suffisamment tremper leurs légumineuses, qu'il y a beaucoup de céréales et de légumineuses. Et de fait, quand tu es sur un régime déjà à minima végétarien, tu vas essayer de chercher tes protéines, c'est ça, dans les protéines végétales. Ouais. Donc, il y a beaucoup de légumineuses. C'est aussi un régime très glucidique, finalement, parce que les céréales, c'est des glucides. Les légumineuses, on va retrouver un petit peu de protéines, mais il y a quand même un gros apport de glucides. Beaucoup de fruits et légumes qui sont quand même aussi des glucides. Donc, c'est difficile de trouver un équilibre, déjà au niveau digestif. Donc, c'est vrai que c'est des personnes souvent qui ballonnent beaucoup et il y a une grosse hyperperméabilité intestinale, de l'inflammation et du coup, souvent, des troubles hormonaux. Je dis souvent parce qu'il y a des personnes qui sont végétariennes ou véganes bien équilibrées, avec des bons compléments et qui font bien leur cuisine. Mais il y a des personnes pour qui c'est très délétère. Et notamment du fait de ce régime qui est un peu déséquilibré avec un excès d'antinutriments. Donc, vraiment, s'il vous plaît, trempez vos légumineuses, quoi.
Hyper important. Non, mais c'est, t'as raison. On le redit.
Et d'ailleurs, je me permets aussi de faire un petit zoom sur l'avoine, qu'on voit vraiment partout, qui est la grande star des réseaux sociaux, des...
Des régimes healthy.
Exactement.
Des gâteaux version...
Exactement. Des régimes hyper healthy, on végétalise tout. Il faut savoir que l'avoine, en plus de contenir du gluten, elle contient énormément d'antinutriments. Et donc, quand on fait son petit porridge à l'avoine en se disant « Trop bien, ça va me caler pour mon petit-déj et tout », en fait, on se prépare une petite bombe pour nos intestins. Donc, l'avoine, si on veut le consommer, il faudrait faire, encore une fois, comme nos ancêtres, le faire tremper en amont et ensuite le cuisiner. Et sinon, dans tout ce qui est, par exemple, boisson au lait d'avoine, tout ça, vous inquiétez pas que les industriels, ils se sont pas du tout embêtés à le faire tremper. Donc là, vous buvez un petit concentré de gluten anti-nutriments. Donc, c'est pas du tout l'idéal. Donc, c'est vrai qu'en termes de lait végétaux, moi, c'est pas du tout quelque chose que je recommande. Et même les porridges au flocons d'avoine, c'est pas du tout quelque chose que je recommande parce que c'est juste une bombe atomique pour l'intestin. Donc, plutôt partir, par exemple, si c'est vraiment votre péché mignon de fou, le porridge, partir sur des flocons de sarrasin, des flocons de châtaigne, par exemple, qui déjà contiennent un peu moins d'antinutriments parce que ce sont des pseudo-céréales, le sarrasin et la châtaigne, et qui sont naturellement sans gluten.
Ouais.
C'est un produit qui est transformé, mais déjà qui a beaucoup moins de pourvoyeurs d'inflammation. Et pour tout ce qui est boisson végétale, franchement, si vous le tolérez, passez plutôt sur de l'avoine, de la noisette, de la boisson au lait.
Pas avoine, du coup.
Ah, qu'est-ce que j'ai dit, pardon?
T'as dit avoine.
Amande, noisette.
Ouais.
Effectivement, pas du tout d'avoine.
Ouais.
Voilà. Donc,
Et lait de vache plutôt que les végétales, du coup, c'est quoi la battle?
Alors. Gros battle, encore une fois, au niveau des jonctions serrées, il faut savoir que les caséines, donc les grosses protéines qu'on retrouve dans les produits laitiers, en règle générale, mais qui sont un petit peu plus problématiques dans le lait de vache parce qu'elles sont très, très grosses et donc beaucoup plus difficiles à digérer par notre organisme. Du coup, le lait de vache, donc le lait à boire, le yaourt ou encore les fromages à base de lait de vache, ça peut quand même être assez inflammatoire aussi. Donc c'est vrai que quand il y a des gros troubles hormonaux, beaucoup d'inflammation, je recommande pas trop les produits laitiers ou lait de vache, du moins le temps qu'on calme l'incendie. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de bienfaits à tout ce qui est produit à base de lait cru, donc du beurre cru de vache qui ont vraiment brouté l'herbe, du kéfir, des choses comme ça. Ça peut être hyper bénéfique, on a plein de super vitamines dedans, mais en fait, si on n'est pas capable de digérer ces grosses caséines, et notamment parce qu'on est sur un terrain hyper inflammatoire, on va mettre encore plus d'huile sur le feu. Donc plutôt basculer sur tout ce qui est à base de brebis ou de chèvre, si ça passe aussi pour la personne, parce que, encore une fois, j'aurais peut-être dû le dire au début, tous ces conseils que je donne pour réduire l'inflammation, c'est des conseils assez généraux. Et parfois, quand l'intestin, il est vraiment hyper, hyper perméable, bah il va falloir être encore plus précis parfois sur les petites choses à éviter le temps de faire baisser l'incendie et de réparer la paroi intestinale. C'est vrai, alors c'est assez controversé. Pour préciser ces intolérances-là, on peut faire des tests d'intolérance alimentaire, donc des tests sanguins qui vont nous montrer certains types d'anticorps qui réagissent à certains aliments. Et chose qu'on peut assez bien comprendre, je trouve, parce que encore une fois, quand notre intestin est en mode hyperperméabilité, il y a les toxines qui passent par les trous dans le rempart, mais il va aussi y avoir des petits fragments d'aliments pas bien digérés. Et souvent, on développe des intolérances à des aliments qu'on consomme très, très souvent. Et donc, quand on est en mode hyperinflammation et qu'on consomme très souvent un aliment, au bout d'un moment, vu que le système immunitaire, il est déréglé, bah, il va se mettre aussi à réagir à ce type d'aliment-là. Donc, ça peut créer une intolérance. Et donc, dans certains cas, moi, je recommande de le faire. Je le fais pas du tout à tout le monde. Mais parfois, je recommande de le faire. Et c'est vrai que d'arrêter ces aliments-là pendant 3-4 mois, le temps qu'on travaille bien sur la perméabilité intestinale, ben, ça aide vraiment à mettre l'intestin en repos et lui laisser la place, en fait, de se régénérer.
Ouais, éteindre le feu, quoi.
Exactement. Éteindre le feu.
Et après, tu fais les tests, mais tu, ne serait-ce que l'écoute, tenir un journal alimentaire.
Complètement.
Et noter, en fait, à tout ce qu'on mange et à chaque fois les réactions qu'on a. Nous, on fait ça dans le Moody Club, tu sais, sur le, celui sur le SPM, parce que c'est très lié, évidemment, à l'inflammation. Et on leur fait tenir un journal de bord et noter vraiment tout, mais même, parce que moi, j'avais fait un test et c'est le poivre, tu vois, je réagis au poivre. Et j'aurais jamais noté le poivre quand je faisais mon journal alimentaire, tu vois, parce que c'est un condiment. Et en fait, bah, c'est ça. Et c'est à chaque fois qu'il y a du poivre que je pense que je réagissais et je m'en rendais pas compte. Donc, voilà aussi être à l'écoute de tout dans le moindre détail pour arriver à spotter les ennemis, quoi.
Carrément. Et encore une fois, bah, comme tu le dis déjà, normalement, quand on est suffisamment à l'écoute de son corps, on se rend compte quand même un petit peu des aliments qui nous incommodent. Mais parfois, il y a des patients qui sont dans une telle inflammation et qui ont l'impression de ballonner un petit peu à tout.
Tout le temps,
Tout le temps, exactement. Donc, de faire ces tests-là, ça permet de déblayer un peu le terrain. Après, encore une fois, il faut garder en tête que ces tests-là, c'est une photo à un instant T en fonction de l'état à ce moment-là de notre intestin. Et ça ne veut pas dire que c'est toute la vie qu'il ne faut plus du tout manger ces aliments-là. Encore une fois, c'est juste un outil pour laisser la place à l'intestin à se réparer. Parce que on parlait pas mal d'éteindre le feu. Mais en fait, il faut savoir que notre corps, il a cette capacité innée d'arriver à éteindre le feu à partir du moment où on lui laisse l'espace. Et justement, le fait de faire ces évictions sur une courte durée, c'est laisser l'espace au corps de s'auto-régénérer. Et ensuite, on réintroduit petit à petit. Et bien sûr, on va pouvoir l'aider avec des compléments aussi pour réparer.
Ouais, c'est une question que j'avais pour toi. C'est est-ce qu'il y a des traitements pour contrer cette porosité intestinale, pour réparer l'intestin, ou est-ce que c'est juste le fait de faire baisser les agresseurs?
Ouais, carrément. Alors, déjà, baisser les agresseurs, ça fait partie du traitement, moi, je trouve, comme on vient de le dire. Et ensuite, on peut avoir, par exemple, certains aliments comme le bouillon d'os, qui est hyper, hyper riche en collagène et qui va vraiment aider à restaurer notre paroi intestinale. Il faut garder en tête aussi qu'il y a souvent une porosité intestinale dans le cadre d'un organisme qui est dénutri, déminéralisé déjà de base, parce que pour refaire les jonctions entre nos cellules intestinales, on a besoin de plein d'acides aminés, on a besoin de plein de vitamines, notamment par exemple des vitamines du groupe B. Donc dès qu'on est déficitaire en tous ces ingrédients-là, notre intestin il va galérer à se réparer. Et là encore, on est dans une forme de cercle vicieux, parce que peut-être ce que j'ai oublié d'expliquer aussi, c'est que quand il y a une hyperperméabilité, il y a les toxines qui passent et de l'inflammation. Mais en plus, c'est double peine parce que nos cellules intestinales, vu qu'elles se tiennent plus la main là, parce qu'on a découpé toutes les jonctions serrées qui les tiennent ensemble, elles sont plus déboussolées dans leur signalisation cellulaire et dans l'espace. Et au lieu d'avoir plein de microvillosités qui regardent vers l'intérieur du tube pour absorber un maximum de nutriments, ces microvillosités, elles vont se mettre un petit peu n'importe où dans la cellule, et du coup, on va moins bien pouvoir absorber les nutriments et on va être carencé. Et si on a des carences, ça aussi, ça peut causer des troubles hormonaux. Et en plus, ça va empêcher notre intestin de se régénérer. Dans ce genre de situation-là, c'est intéressant de venir renourrir au maximum notre corps. Donc, c'est vrai que c'est pour ça aussi que le bouillon d'os, c'est top parce que c'est un aliment qui est hyper dense en nutriments, mais notamment effectivement en collagène. Et moi, j'utilise certaines poudres qui sont des complexes de micronutriments, d'acides aminés, des compléments alimentaires qui sont vraiment designés pour refaire la perméabilité intestinale. Ça permet d'accélérer un petit peu les choses, en fait, d'aller un petit peu plus vite dans la cicatrisation. Et ça, franchement, j'ai des super résultats et je trouve que c'est des super outils à mettre en place en plus de tout ce qu'on a dit avant.
Et le collagène, pas forcément dans le bouillon d'os, mais comme on le voit aujourd'hui en poudre, ça tu recommandes ou pas ?
Le collagène en complément alimentaire, pour le moment, dans la littérature, c'est un petit peu controversé quant à l'effet sur l'intestin. Donc sur la peau, sur les articulations, il y a quand même pas mal d'études qui montrent que c'est plutôt bien. Pour l'intestin, c'est un peu oui, un peu non. Donc moi, je trouve tant qu'à faire, autant consommer vraiment du bouillon d'os où on sait que ça va être hyper bien assimilé, où on a vraiment des bons résultats, plutôt que de payer des fortunes dans des compléments de collagène, à part si on en a besoin et envie aussi pour d'autres indications. Et à ce moment-là, je pense que ça fera pas de mal de toute façon à notre intestin. Attention à la qualité, donc de bien prendre un collagène plutôt marin, c'est là où on voit que c'est le mieux absorbé. Hydrolysé, hyper important. Comme ça, pareil, au niveau de l'assimilation, on est mieux. Et 10 grammes par jour, quand on est inférieur à 10 grammes par jour, les études montrent qu'il n'y a pas trop d'effet.
Ça sert à rien.
Exactement.
Ouais. Donc ok. Et le bouillon d'os, soit tu le fais toi-même, parce que ça peut vite être cher aussi d'acheter les petits bocaux de bouillon d'os.
Ouais, c'est vrai que de le faire soi-même son bouillon d'os, c'est vrai que c'est l'idéal. En plus, par exemple, souvent les bouchers, ils les donnent, l'os à moelle, des carcasses de poulet, par exemple, on se fait un petit poulet rôti, on garde la carcasse, on peut faire un peu du bouillon d'os avec. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Ça prend un peu de temps, mais à la fois, c'est un truc qu'on le met à bouillir à feu doux pendant des heures, tant qu'on reste à la maison, en gros, c'est bon, quoi. Ouais. Sinon, il y a une option que je trouve vraiment pas mal, c'est les concentrés de bouillon d'os. J'ai pas d'affiliation avec eux, mais la marque Jarmino est vraiment pas mal. Donc, c'est des petits coups de concentrés. Et on prend une cuillère à café. Je trouve seul petit inconvénient, c'est que c'est un peu salé, puis c'est vraiment très, très, très concentré. Une petite cuillère à café, on fait couler de l'eau chaude dessus, et en fait, ça nous fait un bouillon d'os un peu instantané. Mais à savoir que c'est vraiment, ça fait une espèce de pâte. Enfin, c'est vraiment très qualitatif, quoi.
Ok, donc, je regarderai.
C'est une bonne alternative. Effectivement, après, il y a les petits bocaux. Et je trouve, par contre, avec les bocaux, ce qui est un peu délicat parfois, tu parlais tout à l'heure du poivre, c'est vrai qu'ils mettent souvent beaucoup de condiments. Et selon l'état de notre intestin et nos intolérances, parfois c'est pas toujours idéal quand il y a beaucoup de poivre, beaucoup de d'ail, de choses comme ça.
Tu mets du bon d'un côté, mais tu en rajoutes de l'autre.
C'est pour pas trop le tolérer, c'est pas top. Et d'ailleurs, petit bémol, enfin petite attention quand même pour le bouillon d'os. Si vous remarquez qu'en buvant du bouillon d'os, d'un coup vous ballonnez beaucoup, vous sentez très rouge, en train de cuire ou quoi, c'est que l'histamine qu'il y a dans le bouillon d'os vous fait un petit peu réagir. Donc peut-être c'est pas le moment. Il vaut mieux peut-être passer par certains compléments, faire vraiment baisser l'inflammation. Parce que de toute façon, quand il y a inflammation et hyperporosité intestinale, il peut y avoir des soucis d'histamine. D'accord ? Donc ça, l'histamine, c'est un composé chimique qu'on va retrouver dans tout ce qui est allergie. Et qui peut se déclencher un peu à outrance quand on est en contact, par exemple, avec des aliments riches en histamine, à partir du moment où il y a une hyperperméabilité et de l'inflammation, parce qu'encore une fois, le système immunitaire, il peut être un petit peu déréglé et donc facilement déclencher des phénomènes d'histaminose, quoi. Et donc, on peut faire des réactions. Encore une fois, à adapter au cas par cas, même pour l'histoire des bouillons d'os.
Ouais, l'histamine, on se fait des boucles dans les boucles, mais très lié aussi au syndrome périovulatoire parce qu'il s'auto-excite avec les œstrogènes. Et du coup, il y a plein de femmes qui ont des symptômes de migraines, d'irritabilité, d'insomnie au moment de l'ovulation. Et souvent, c'est ça. C'est qu'on se fait, on a une résistance à l'histamine et on l'excite avec les œstrogènes. Je sais pas si c'est des choses aussi que tu regardes, toi.
Carrément.
Ça me passionne, mais.
Alors. Ça, c'est vrai qu'encore une fois, j'aime bien rester très clinique. Je vais pas forcément chercher des choses hyper compliquées. C'est vrai que parfois aussi, il y a des susceptibilités, encore une fois, avec des polymorphismes génétiques, avec une DAO, donc c'est-à-dire une enzyme qui permet de dégrader l'histamine, qui fonctionne pas très bien. Donc, on a une hyperhistaminose. Donc, à part quand c'est des cas très, 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 très compliqués où on voit que l'histamine cause, enfin, les symptômes d'hyperhistaminose couchent vraiment toutes les cases, où là, on peut aller chercher, mais souvent, c'est des symptômes qui, quand même, arrivent à se résoudre à partir du moment où on s'occupe de l'intestin.
Ouais.
À partir du moment où l'intestin est réparé, Souvent,
c'est ouais, bien sûr. Genre. Non, et moi, je sais ce que je fais. Je parle que de moi dans cet épisode. Normalement, je fais pas ça. Mais pour le coup, j'ai creusé ce sujet-là. Et moi, je sais que tous les aliments riches en histamine, je les arrête au moment de l'ovulation et avant mes règles. Et en fait, je vais vachement mieux. Mais si j'ai le malheur de boire de l'alcool, de manger du chocolat, des bananes, tu vois, quand je suis en pleine montée d'œstrogène, je suis sûre que j'ai une migraine, quoi.
Ok.
Tu vois, incroyable. C'est fou.
Ouais.
Mais bon, après, donc c'est encore un phénomène de toutes ces connexions dont tu parles. Et en fait, on n'est pas tous des biochimistes ou des médecins fonctionnels comme toi, donc on n'a pas cette lecture-là. Mais quand on commence à rentrer dedans, c'est passionnant parce qu'on voit toutes les connexions partout et on se dit, mon Dieu, mais tout est tellement logique. Et surtout, j'ai une prise sur tellement de choses. Carrément. Tu vois, quand je comprends les connexions. C'est un peu ce que t'expliques là, avec ces aliments qui viennent augmenter la porosité intestinale, etc. Quand on sait ce qui agit où, et ben après on devient acteur, quoi.
Et c'est vrai que tu as raison d'insister là-dessus, et moi c'est un message important que j'ai envie de faire passer, j'essaye de faire passer un peu sur Instagram et même avec mes patients, de dire qu'on peut complètement être acteur de sa santé et reprendre le pouvoir un peu sur ces symptômes qui nous invalident au quotidien, parce que même avec des choses simples, on a plein de leviers d'action, quoi, et on peut vraiment agir au quotidien sur tout ça et aller mieux. Et franchement, plein de patients, déjà, le mettre ça en place, y a beaucoup moins de syndrome prémenstruel. Alors, parfois, c'est zéro complet, et là, c'est génial, mais parfois, c'est déjà une diminution. Donc, ça fait souffler quand même, et puis, ça fait plaisir de voir qu'il y a une amélioration. Pareil sur de l'endométriose, sur plein de choses. Et tu vois, on en avait parlé un petit peu par message la dernière fois. Je trouve que c'est dommage quand il y a des gros troubles hormonaux, même des débuts de prise en charge de PMA ou d'infertilité, qu'on ne suggère pas déjà par l'hygiène de vie d'essayer de limiter l'inflammation, parce que déjà peut-être si on faisait ça, il y aurait peut-être des améliorations, ou peut-être on y verrait un petit peu plus clair aussi dans le tableau clinique, parce que parfois il y a une telle hyperinflammation qu'il y a des symptômes qui partent dans tous les sens, on comprend presque plus rien, et c'est hyper important de soigner l'hygiène de vie de toute façon. Enfin ça, je pense que tu l'expliques aussi dans tous les clubs, tout ça, mais je pense que c'est dommage aussi parfois de s'en remettre à une assistance médicale à 100% sans être acteur de sa santé, parce que on pense et on nous a dit depuis des années que de toute façon on pouvait rien faire, que nos symptômes c'était comme ça, qu'il fallait juste prendre des médicaments. Parfois il faut prendre des médicaments, bien sûr, je suis pas du tout en train de cracher là-dessus, mais en fait il y a plein de choses qu'on peut résoudre avec de l'hygiène de vie. Ça peut faire un peu bisounours dit comme ça, mais en fait c'est vrai. Et on peut avoir...
Non, mais c'est de bon sens, et c'est comme ça qu'on s'est soigné aussi, je pense, pendant des milliers d'années, en travaillant sur le terrain, l'hygiène de vie, et pas toujours que sur du pur médical.
Carrément. Et typiquement, quand on dort pas, qu'on est vraiment surstressé, qu'on bosse tout le temps, qu'on n'a pas un moment pour soi, qu'on mange sur le pouce des trucs hyper inflammatoires dont on a parlé, parce que typiquement, quand t'as pas le temps et que tu veux aller juste prendre un sandwich, un truc, mais en fait, c'est une bombe inflammatoire. Là, en fait, on a juste tous les ingrédients pour avoir des troubles hormonaux, quoi.
Ouais. Donc, remettre un peu de bon sens dans tout ça. Je pense j'ai bien compris tout ce que tu as expliqué sur l'inflammation, et c'était très clair. Et c'est la première fois, je pense, que je l'entendais expliquer de façon aussi simple. Merci pour les roquettes que je me retiendrai sur la tour de guet. Mais merci d'avoir expliqué tout ça. Est-ce qu'il y a un truc trop important dont on n'a pas parlé, un mot de la fin, quelque chose que tu voulais rajouter?
Je pense qu'on a fait le tour sur pas mal de choses. Bon, sur l'hygiène de vie, on pourrait encore parler des heures et des heures, mais c'est vrai que c'est peut-être pas le lieu de toute façon. Mais le mot de la fin, ça serait vraiment, comme on le disait, d'être autonome sur sa santé et de se renseigner, de pas rester passif ou dans son coin, et de surtout pas rester à souffrir dans son coin et à croire que c'est juste dans sa tête et que c'est juste le stress, bien que le stress est un gros pourvoyeur de plein de symptômes. Mais voilà, tout n'est pas dans votre tête. Les symptômes, on peut complètement les prendre en charge, et qu'il faut pas hésiter à creuser et à être plus à l'écoute de son corps pour pouvoir aller mieux. Et de toute façon, dès qu'on met la poussière sous le tapis et qu'on n'écoute pas son corps, c'est là où petit à petit, on fonce droit dans le mur. Donc, bien écouter son corps, je pense que c'est vraiment la clé, et être acteur de sa santé aussi.
Merci Claire, j'adore. C'était très, très riche, et je pense que tout le monde aura appris plein de choses et surtout aura eu plein de petites clés pour commencer à arranger un petit peu son climat inflammatoire, puisque ce que je retiens aussi, c'est qu'on l'est tous un petit peu quand même, enfin plus ou moins, mais quand même un peu.
Malheureusement, carrément. Et peut-être dernier petit mot de la fin pour ceux qui veulent plus se renseigner là-dessus. Déjà, sur le tout ce qui est alimentation, il y a quand même le régime du docteur Seignalé, qui est un peu une référence okay. en tout ce qui est hypo-inflammatoire. Et il y a aussi le l'auto-immune protocole, AIP, de docteur Sarah Valentine, qui est une médecin américaine qui a énormément travaillé sur l'auto-immunité et l'inflammation. Donc, ces deux ouvrages-là, et on peut trouver aussi des vidéos sur Internet qui parlent de ça, je pense que c'est des super ressources pour parler d'anti-inflammation.
Je mettrai les liens, je te demanderai s'il faut, et on mettra les liens en commentaire.
Carrément.
Génial. Merci Claire.
Merci à toi.
Je sais pas à vous, mais j'ai adoré cet épisode et j'adore cette vision qu'a Claire, qu'a la médecine fonctionnelle de notre corps, de notre hygiène de vie, de l'impact, de tout ce qu'on peut faire soi-même en autonomie pour aider son corps, aider sa fertilité. Vous le savez, on l'a dit un peu dans l'épisode, c'est vraiment ce qu'on fait, nous, dans le Fertility Club. On met toute notre énergie là-dedans. Donc, j'espère que vous l'aurez ressenti. Si vous voulez plus d'infos sur les ressources dont a parlé Claire, je les mettrai bien sûr en description. Sur le Fertility Club, je le mets aussi. Son compte Instagram aussi pour la retrouver. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous embrasse bien fort.
Émancipée.
Émancipée.